David et Deguide avec nous. David, comment vas-tu?
Comment ça va, David?
Comment ça va, les boys?
Ça va bien, la saison a débuté, mon David. Ça fait du bien, on a du vrai hockey.
C'est le fun.
Ah oui.
C'est le fun.
David, pour commencer, mais qu'est-ce que tu retiens du premier match du CHIA dans cette défaite contre Toronto?
Ben, plusieurs choses. Premièrement, c'était j'ai beaucoup aimé la performance dans l'ensemble des Canadiens de Montréal. Je sais que c'est une défaite de 5-2. On se dit, bon, ils ont perdu par 3 buts. Mais la réalité, c'est qu'ils ont joué. Ils ont eu une solide performance dans l'ensemble. Mais il y a certains points que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, la Bolduc qui m'a impressionné pour son premier match. C'était vraiment... il s'implique, il va au filet, il va où ça fait mal. Il n'a pas peur de faire ce qu'il a à faire. J'ai adoré Kapanen. Son but était... un tir vraiment des ligues majeures. Il a le sens du hockey. Voilà, j'étais content de voir ça. J'ai aimé le piqué des Canadiens, comment on s'est comporté. OK, Kapanen sur le pic. J'ai beaucoup aimé Newhook. J'ai vu des choses que j'ai beaucoup aimées sur le piqué. Et il y a des affaires que j'ai moins aimées. J'ai pas tout à fait aimé la première ligne pour le premier match, forcé d'admettre. Suzuki a pas connu un grand match. Mais ce qui m'a marqué le plus, et ce qui va certainement pas passer inaperçu, c'est les mises en jeu. Et ça, là, à 39%, là, c'est impossible de gagner dans la Ligue nationale avec des centres qui font 39% dans l'ensemble. Pas 41%, une affaire du genre. Une chance, on a eu Kapanen à 50, mais dans l'ensemble, ça a été horrible au niveau des mises en jeu. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que on n'a vraiment pas un centre de deuxième trio. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Ça va pas être long avant que les Canadiens vont comprendre qu'ils n'ont pas le choix.
David, pour faire un petit chemin ou un petit bout là-dessus également, tu sais, oui, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, comme tu dis, puis c'est important de le dire. On remet ça ce soir, fait que ça, c'est une bonne affaire. Mais vu qu'on t'avait pas parlé aussi à la fin du camp d'entraînement, tu sais, quand on regarde, c'est le premier match hier. Peut-être un petit mot sur l'alignement partant du Canadien de Montréal en vue de la saison, à quel point t'es confiant ou t'as des inquiétudes. Tu parles du deuxième centre, des combinaisons, de l'ensemble de l'œuvre de cette formation du CH pour la saison.
J'ai deux inquiétudes. La grosse inquiétude, c'est le joueur de centre, on va pas se le cacher.
Ouais.
OK? Mais je suis à l'aise avec la défense. J'adore la défensive des Canadiens. J'aime comment ils ont jumelé ça. Il n'y a pas de problème. J'aime, disons, trois des quatre trios. OK, je vois un peu comment c'est positionné. Il n'y a pas de problème. On a du talent. On a un peu quelques vétérans. On a un peu une première ligne de qualité. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Laine? Qu'est-ce qu'on fait avec Laine? Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? On l'a fait jouer 13 minutes hier et on ne sait pas où il va. Et il ne peut même pas être un spécialiste de l'avantage numérique. Je pense qu'il était en power play 45 secondes. Une affaire du genre.
Il joue sur la deuxième vague, David. Fait que c'est utopique de penser. C'est utopique de penser qu'on en a souvent parlé avec Georges, que les deux vagues vont jouer une minute chaque. Je veux dire, on va pas arrêter le jeu, on va pas sacrer à poc dans les estrades pour arrêter le jeu. Là.
Hier, c'était du 30 secondes pour une minute et demie quasiment.
Ah oui.
Donc, en réalité, Demidov, tout ça, peut-être qu'il va bifurquer, mais qu'est-ce qu'on fait avec Laine? Puis on a vu, il n'y a peut-être pas le patin. Il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait avec lui?
David,
donc, je pense que
David,
ça, c'est la question.
Ce dossier-là, David, là, tout l'été, on en a parlé. Puis les gens, ils comprenaient pas pourquoi on disait ça. Mais Laine, c'est une patate chaude. Il n'y a pas sa place dans le line-up. On le fait jouer parce qu'il est là. Puis il fait 9 millions.
C'est pas un gars de quatrième trio.
Non,
ben non.
Les gens comprennent pas qu'il y a un rôle dans une équipe. Un gars de premier trio, deuxième trio, ne peut pas jouer sur un quatrième trio, et le gars de quatrième trio ne peut pas jouer sur un premier trio. Donc, il y a des matchs avec les autres équipes, on match des joueurs, ça marche pas. Donc, automatiquement, ça va devenir problématique. Donc, l'année, qu'est-ce qui se passe? Et le deuxième centre, à part ça, je pense qu'on est bien équipé devant le filet, je suis à l'aise avec le filet, la défensive, les trois des quatre trios.
Là, David, la grosse question... avec tout ce que tu vois, est-ce que tu penses que les Canadiens vont faire les séries, oui ou non, et pourquoi?
Non, ils feront pas les séries, les Canadiens. Les amis, écoutez là.
Écoutons, David.
Je répète, les Canadiens ne peuvent pas faire les séries avec un deuxième centre qui s'appelle Kapanen, dans une année recrue. Je dis pas que Kapanen, dans 3 ans, il est pas capable. Mais Kapanen, c'est un futur exemple, Lekkonen, exemple. Ou peut-être même avec un meilleur QI que lui. OK. Mais il est pas là, il est recru. On voit bien que Dak n'est pas capable. 21% dans les mises en jeu hier. Il a du mal à suivre. Et on voit Nio qui n'a absolument pas un centre. C'est un ailier, Nio, puis on va lui donner des tâches défensives au niveau du désavantage numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième ligne de centre? On l'a vu hier. Lorsque Suzuki ne performe pas, il n'y a personne d'autre pour tenir le flambeau au centre. Un élite, il n'y en a pas. Et pour faire les séries, tu n'as pas le choix d'arriver, à moins d'être très, très chanceux et d'avoir une autre saison que tu peux rentrer avec 91 points et plein d'affaires. Les Canadiens sont à un joueur de centre d'aller en deuxième ronde des séries, même pas aller en série. Mais il faut qu'ils le trouvent et ça peut pas être Kapanen et ça peut pas être Veleno. Ça sera pas New York ni Dak. Il faut que les gens se réveillent. Donc, on est dans la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue au monde. Et cette année, la parité est encore plus forte que dans les 5 dernières années. Donc, il faut absolument qu'ils s'ajustent rapidement ou que quelque chose arrive. Mais c'est pas Bolduc non plus. On a vu Bolduc qui a perdu une mise en jeu. C'est pas un centre. Donc, on n'a pas de solution à l'interne. Bolduc a perdu une mise en jeu qui a coûté au but aux Canadiens. Je pense que les gens comprennent pas l'importance des mises en jeu dans ce sport. Et c'est très important de comprendre, je parle pas que des mises en jeu, mais entre autres, ça c'est un des éléments clés. Et je pense qu'on est loin du compte là à l'heure actuelle.
Ouais, ça va être à suivre, bien sûr, mais on a ta prédiction maintenant. On avait mis les trois en série, et là David, tu les places pas en série.
Mais je comprends ce qu'il dit, c'est si vrai. On n'a pas de deuxième joueur d'ascente.
Mais non, mais Georges, parce que quand on en a parlé, puis je t'ai dit, moi je pense qu'ils vont le faire, mais comme ça va se régler encore à la dernière minute ou presque, parce que... On prend pour acquis que l'année passée, le Canadien de Montréal a fait les séries, puis il n'y avait pas de deuxième centre. Mais ouais. C'est une fois n'est pas coutume, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas.
Mais tu sais, quand on a fait nos prédictions, moi, j'assume que le Canadien va aller chercher un deuxième centre. Le plus tôt possible.
Je comprends, mais tu sais, à moins qu'on le dise.
Ils ont jusqu'à décembre, les boys.
Exact.
Ils ont jusqu'à décembre. Si les Canadiens vont chercher un joueur de centre de qualité d'ici décembre, je vous dis, ils font les séries et ils font peut-être deux rondes cette année. Mais s'ils ne le font pas, ça n'arrivera pas.
Moi, ça me ferait parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la prédiction audacieuse d'hier qu'on reviendra.
Mais l'affaire, Vic, c'est que... Il y a différence entre ne pas faire les séries et parler de Mécano.
Parce que là, les gens, ils commencent parce que, avec
ça. Hey, David, on va te poser la question pour le fun. La question d'hier.
Ah ouais, mais elle brûle pour point comme ça.
Ben oui. David, qu'est-ce que tu aimerais mieux, toi, cette année?
Okay,
que le Canadien fasse les séries ou que le Canadien aille Mécano?
Que les Canadiens fassent les séries ou qu'il y ait Mécano?
Mettons, là, année, là, cette année, mettons.
Une année, non, je prends Mécano.
Merci,
non, prends
Mécano,
David. C'est clair.
Merci,
David. David, attends. David, attends. Même si ça voudrait dire que les Canadiens doivent terminer au bas-fond puis tous les joueurs vont déçus.
Attends, ça veut pas dire ça. Les Islanders ont fini 23e l'année passée puis ils ont gagné la loterie.
Oui, mais Big, pour gagner la loterie, il faut que tu finisses dans les bas-fonds quand même.
On peut s'éterniser, mais l'équipe, je prends en considération que l'équipe ne change pas. Donc, on a les mêmes éléments, puis on n'a pas fait les séries, puis ça a été mal. Il y a eu des blessés, on a perdu Prudnage, on n'a pas eu de deuxième centre. On a fini 25e, 27e, puis on a gagné la loterie. J'ai pas de problème parce que Mekena, c'est un générationnel. Tu peux pas dire non à un joueur comme ça qui pour une saison là.
Bon, ça arrivera pas.
Les joueurs pour se rendre dans cette position là, ça veut dire qu'ils auraient tout régressé. Puis dans un environnement que tu régresses comme Edmonton ont fait pendant 10 ans, David, si tu apprends comment perdre, tu sais pas comment gagner. Même si tu mets Mekena dans un environnement de merde.
Exact.
Prends ton point. Genre, je comprends ton point, mais c'est une supposition. Parce que les Canadiens peuvent terminer 28e, pas parce que les gars ont régressé, parce qu'il y a eu 5 blessés importants,
et voilà.
Des joueurs de qualité.
Ouais, mais là, 5 blessés.
Okay, puis que tu n'as jamais trouvé de joueur de centre pour aider.
David.
Puis ça arrive à ça.
Essaye pas de le convaincre.
Mais non, mais Denzo, n'importe quelle équipe, s'il y a 5 blessés importants, ils ne feront pas les séries.
Ben,
là.
Oui, mais la question est toute simple.
Genre, si les Canadiens manquent les séries cette année par un point, ils les ont manqués pareil. Puis là, tu vas me dire en bouline, ben oui, mais ils ont progressé, les jeunes. Ils ont progressé, mais ils ont régressé. Mais tu me donnes un Mekena.
Ouais, mais s'il manque la série par un point, David, les chances qu'un Mekena, c'est très minime.
Ouais.
Non, ils ne l'auront pas. Ils l'auront pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est que manquer les séries une année ou avoir un joueur générationnel dans ta formation, c'est clair que tu prends un joueur générationnel. Je pense que Ken Hughes dirait la même affaire.
Mais sauf que ça dépend comment tu les manques.
Oui, exact.
Si tu es dans les bas-fonds, David, pour l'avoir, parce que moi, quand que je parle de l'avoir, c'est déterminé d'un cinq dernier. D'un bas-fonds pour avoir 20% de chance de loterie de l'avoir.
Hier, on s'est amusé, David. D'ailleurs, tu dois dire comment ça sort de là. Parce que hier, on a fait nos prédictions audacieuses, négatives et positives. Et là, ma prédiction audacieuse, négative, je l'ai dit à la blague, j'ai dit le Canadien remporte la loterie Gavin McKenna. Et là, Georges s'est insurgé. Mais ma prédiction positive, c'était que Crosby débarquait à Montréal. Tu comprends? C'était un jeu.
Oui, mais donc, les boys, là, on va arrêter ça parce que ça n'arrivera pas. Les Canadiens ne seront pas derniers de la ligue.
Et voilà, okay? Ben oui, c'est ça.
Et McKenna va sûrement aller jouer à Pittsburgh ou Chicago, une affaire du genre.
Et voilà, ouais. Ah ouais. Hey, avant d'aller en pause, il faut absolument te parler de ça, David. Les nouvelles sur le contrat de Lane Hutson. Il y a eu les informations qui sont sorties d'Elliot Friedman, d'Emily Kaplan également, comme quoi, bon, les demandes du clan Hutson étaient peut-être un petit peu en dessous du 9,5 de Noah Dobson, mais que les choses auraient pu changer maintenant aussi avec les signatures de Hughes, avec les signatures de Lacombe, qui avait peut-être un montant différé, mais là, on peut plus faire de montant différé de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu vois se dessiner pour Lane Hutson et le Canadien?
Moi, je vois se dessiner que, premièrement, là, le fait que Darren Dreger, là, il a dit comme quoi que Sean Coffey était un peu tassé pour que Ryan Barnes et Darren Ferris prennent le contrôle, là, ça, c'est jamais bon signe. Je vous le dis. Dans une agence, là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une requête familiale. C'est le clan du joueur. C'est pas la firme qui a dit, on va te tasser de là, puis on va s'occuper de ton joueur. C'est parce que la famille est pas contente de ce qui arrive. Et ça, en réalité, ça veut dire, on dit, hey, on va pas aller dans une autre agence, mais trouvez-moi une solution, ça peut pas être ce gars-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, automatiquement, c'est qu'il y a un désaccord qui est là. Et là, on est obligé de rentrer les plus forts de l'agence Quartex pour essayer de régler ce problème-là. Moi, pour pouvoir clore ça, ce que j'ai dit, hein, sur mes médias sociaux, c'est simple. C'est que ça ira pas à 8 ans, parce que c'est pas du tout à l'avantage, mais pas du tout à l'avantage de Lane Hutson. Lane Hutson veut tomber UFA le plus rapidement possible, de préférence à 27 ans. Le marché est en explosion. On voit les salaires 13,5 à Vegas hier. L'autre, il touche 12 millions. L'autre, 17 millions. Donc, c'est clair que lui, son avantage, c'est pas de se sceller à 9 ans, pas à 8 ans, parce qu'on va lui donner le comparatif de Hughes. Donc, c'est clair et net que moi, ce que je peux vous dire, c'est à mon avis, 6 ans, 8,75 millions, c'est moins que ce qu'il vaut, mais il va être libre plus tôt. Ou ça va peut-être être entre les deux, un 7 ans à 9,15 millions, qui va être légèrement au-dessus de Hughes, exemple, mais qui va quand même donner cette année, donc une certaine garantie, une année d'autonomie aux Canadiens de Montréal, et ça va être parfait comme ça.
Là, David, celle-là, on a hâte que tu répondes à celle-là, parce que, tu sais, avec le contrat qu'a pris ça, puis on s'entend que quand il a signé ce contrat-là, c'est parce que Minnesota, il avait peur de le perdre, ils ont plus payé pour qu'il reste là, sinon il s'en allait. McDavid, s'il aurait voulu, il aurait pu signer 20 millions par année. Donc, en signant 12 millions par année, pratiquement, il laisse 8 millions sur la table par année, dont 16 millions. Toi, là, t'es son agent. Comment tu réagis quand ton joueur te dit ça? Te dit, parce que c'est le joueur qui décide, quand le joueur te dit, sais-tu quoi? Dis à Wallers, 2 ans, 12,5 par année. Comment tu réagis? Parce que toi, t'es payé par rapport au pourcentage de comment le joueur fait. Fait comment tu réagis à un joueur qui fait ce que McDavid a fait? Puis comment tu réagis au fait que McDavid a fait ça pour aider l'équipe? Même Gary Bettman a louangé McDavid hier en disant qu'il admire son commitment à Edmonton en faisant ce contrat-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Oui, il admire ça parce que lui, hein, il, en tout cas, moi, j'ai eu des sueurs froides. Quand j'ai vu ça, je me suis... Écoutez, les gars, je suis retourné en arrière. Souvenez-vous, là, parce que moi, je suis bien placé pour vous en parler. Vous savez qu'à un moment donné, ma firme, on avait un client qui s'appelait Marianne Ossa, hein.
Ouais.
Et on avait reçu une offre de 80 millions pour des Oilers.
Exact.
Justement des Oilers pour 9 ans. Marianne nous avait dit, je veux gagner la Coupe Stanley, je veux aller à Détroit, puis on l'a signé un an à 7,4 millions.
Ouch.
Donc, t'as une variance, là, une différence de 73-74 millions entre les deux. Maintenant, on a une chance, on a réussi à le signer à 63 millions pendant 12 ans avec les Hawks l'année d'après, qui a amené le total à 70 millions au lieu de 80. Donc, on n'a pas trop perdu, mais je vous dirais comme quoi, l'agent, là, pour que vous compreniez, McDavid, là, la décision qu'il a prise, ça vient de coûter 600 000 $ de commission à son agent. la décision qu'il vient de prendre pour 2 ans, là.
Ouais.
Je suis pas en train de dire pour la carrière entière de McDavid, là. La décision que McDavid a prise pour 2 ans vient de coûter à son agent $600,000 de commission. Maintenant, McDavid est millionnaire à plusieurs reprises. Lui, il peut se permettre de vouloir gagner la coupe, mais l'agent, lui, il gagne pas une coupe Stanley, l'agent, lui. L'agent, il la gagne pas, la coupe Stanley. C'est son client qui la gagne. Donc, lui, il vient de perdre 600 000. Maintenant, ça, c'est émotionnellement, je vous explique comment on se sent dedans. Maintenant, la réalité, elle est quoi? Tu es là pour servir ton client. Et ton objectif premier, c'est d'arriver exactement à l'objectif de ton client. Donc, lorsque Marianne Nassan nous a dit ça, ou dans le cas de McDavid, qui me dirait ça, je lui expliquerai les faits réels. Écoute, voici ce que tu vas perdre comme argent. Voici ce que tu laisses sur la table. Voici les risques à l'intérieur d'un contrat de 2 ans. Voici. Par ailleurs, tu as une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est ce que tu veux. Tu veux redonner à l'équipe. Tu veux redonner à la ville. Peu importe la raison. Je vais endosser son choix et je vais embarquer avec lui là-dedans. Mais la réalité, elle est que 12,5 millions pour un gars qui en vaut 20. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais te décevoir, Georges, mais c'est les 3 dernières années de McDavid à Edmonton.
Ouais, ben non,
McDavid,
David, je suis d'accord avec toi.
Non.
S'il ne gagne pas, je suis d'accord.
Sa carrière. Dans les deux manières.
OK, même s'il gagne.
Oui, puis je vais t'expliquer pourquoi.
OK.
Parce que le cap salarial va monter. À un moment donné, le cap va être à 105, 110, 115, 120 millions. C'est pas vrai que les Oilers d'Edmonton vont vouloir aller au cap. C'est faux. Peut-être que c'est un bon marché de partisans, mais ça reste une ville comme Edmonton.
David,
c'est pas New York.
Le propriétaire est milliardaire.
Je comprends. Le propriétaire non plus pour perdre des milliards ou des millions de dollars. Donc moi, ce que je te dis, et peut-être que je me trompe à 20%, mais la réalité, c'est que lui, il donne 3 ans. Il gagne la Coupe Stanley dans les 3 ans, il s'en va pareil. Pourquoi? Il va aller au plus offrant. Et c'est clair qu'il y a un gros marché qui va lui dérouler un tapis d'or pour venir finir sa carrière, qu'Edmonton ne pourra même pas matcher s'ils ne veulent pas perdre des millions et des millions et des dizaines de millions.
Et s'il ne gagne pas,
c'est pire encore. Parce que c'est sûr qu'il s'en va.
Oui, là, c'est
ouais,
ça.
Mais là, il va faire moins sauter la banque, David.
Exactement. Mais il ne sera plus à Edmonton dans les deux manières. Donc, Edmonton, ils ont 3 ans pour gagner cette Coupe Stanley avec McDavid.
Mais ça, c'est sûr. Ça là-dessus, je suis d'accord que... Ouais. Il s'en va s'il gagne pas la coupe, là-dessus, je suis d'accord.
Ah, s'il gagne pas, c'est terminé.
De l'autre côté, je suis pas sûr.
Edmonton ne montera pas à 120 millions. Georges, arrête d'imaginer ça.
David,
un milliardaire, c'est un homme d'affaires d'abord et avant tout. Jeff Molson, il est peut-être milliardaire aussi, parce que les Canadiens valent 3 milliards de dollars. Mais si demain, tu dis à Jeff Molson, Jeff, t'aimes les Canadiens, puis t'es un milliardaire qui est un peu farfelu, tu vas perdre 30 millions de dollars ou 28 millions de dollars par année pour les 6 prochaines années que tu as signé McDavid. Tu vas perdre 200 millions. Il n'y a pas un fou qui va faire ça sur la
table. Si tu parles McDavid à Edmonton, c'est fini l'équipe, la ville, c'est fini.
Genre, ils ont perdu Gretzky, puis ils ont gagné la Coupe Stanley sans lui.
Ouais. Ben, il y avait Messier. Là, tu dis toi, Léon.
Il y avait 11 joueurs à l'équipe des étoiles.
Georges, au contraire, tu prends McDavid dans sa dernière année, tu le monnaies dans un sign and trade, quelque chose de monstre, et tu repars ta franchise, mon ami.
T'imagines si ça avait arrivé?
Oui.
Ça serait quand même fou. Pour le partisan de hockey, en tout cas, ce serait un... très intéressant. Hey, David, tu sais, on a vu les contrats puis on se demandait, bon, est-ce que c'est Kaprizov qui va avoir l'influence? Est-ce que c'est la signature de McDavid et tout le reste? On a vu Jack Eichel signer 8 ans. On a vu Kyle Connor également signer tout le reste. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres joueurs qui vont imiter plus McDavid et prendre moins pour tenter de gagner? T'sais, on a parlé un peu des Panthers de la Floride, mais de voir ceux qui l'ont pas gagné, parce que Eichel l'a déjà gagné, puis on pense à certains autres qui l'ont déjà gagné, mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont vouloir imiter? Est-ce que ça va influencer d'autres?
Oui, mais seulement une infime partie des joueurs. Parce qu'un joueur marginal ne peut pas se permettre de faire ça. Un Georges Larraque ne pouvait pas se permettre, quand je négociais pour lui, de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une période, exemple, de 7, 8, 9, 10 ans pour faire de l'argent pour une vie entière ou presque. Donc lui, il doit maximiser. C'est pas le temps de vouloir gagner absolument une coupe. Mais un gars comme McDavid, 100 millions de dollars dans son compte de banque, ou 200 millions, peu importe, lui, il peut se payer le luxe de perdre 20 millions pour gagner une coupe, mettre ça dans son pedigree, puis là, il, c'est ce qu'il appelle leur legacy qu'il laisse.
Exact.
OK? Donc, en réalité, ça, c'est pour des joueurs super vedettes ou à la rigueur, vedettes de haut niveau qui ont fait plusieurs dizaines de millions de dollars déjà et qui peuvent se permettre de prendre une décision pareille.
Puis, David, pour finir, pour le fun, on le demande à tout le monde, t'es finaliste et gagnant de la Coupe.
Finaliste dans l'Est, ça va être les Hurricanes, à mon avis. Cette année-là, moi, j'ai même des doutes que la Floride va même faire les séries cette année.
Wow.
Ça va être très dur pour eux. Ça va être difficile. Ils vont être fatigués. Ils ont des gros morceaux qui sont pas là longtemps. Ça va être dur. Mais je pense que les Hurricanes, ils auront pas dans les pattes là, les Panthers cette année. Ils les auront pas. Il y a une équipe qui est super bien balancée. Aro, Stankoven, Jarvis, Slavin, Healers, Kendrick Miller. Ils ont une bonne équipe. Ils se sont améliorés au niveau du filet. Ils ont de la meilleure profondeur. Ils sont bien coachés. Moi, je pense que les Hurricanes vont aller en finale de la Coupe Stanley. Et je pense que ça va être contre les Stars de Dallas, finalement. Et je pense que les Stars vont remporter la Coupe Stanley cette année.
Wow.
Je sais qu'ils sont pas favoris. Je sais qu'il y a eu quelques blessures. Mais dans l'ensemble, j'aime ce jeu. Ils sont gros, ils sont physiques, ils ont de l'expérience. Ils sont bons en toutes les positions. Ils ont un gardien qui est incroyable. Donc, je pense qu'ils sont bien dirigés. Je pense que cette année, ça va être l'année des Stars de Dallas. Personne ne parle d'eux cette année. Okay, on parle d'eux comme une des bonnes équipes.
Parce que les Oilers débattent facilement en série chaque année.
Dans l'Ouest, ça va être tough, les gars. Honnêtement, là, Vegas, Edmonton, Dallas, Colorado, t'as des gros canons.
Non, Vegas sont forts, vont être forts.
Moi, je pense que ça va être Dallas Hurricanes, ça va être Dallas qui va...
Ça serait drôle avec Rantanen comme Conn Smythe, puis comme ça, il fait ça à l'équipe qui est allée visiter quelques mois.
Ils ont plus d'expérience, je pense, que les Hurricanes au niveau des séries. Donc, je pense qu'ils ont... c'est leur année. Ça fait 2-3 ans qu'on parle d'eux, mais là, on les a un peu oubliés dans les pronostics cette année. Là, c'est comme ils n'existaient pas. Donc, moi, je pense qu'ils vont être là jusqu'à la fin cette année.
David, merci bon Big. Début de saison. Bon match ce soir, Canadiens Wings. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, Big.
Merci. Bonne semaine, les boys.
Salut. Yes. Salut.